Il s'arrête pour s'orienter. Tout à coup, il regarde ses pieds. Ses pieds ont disparu. Victor Hugo. Devant un mur d'obscurité, bruit d'un moteur de voiture au ralenti, non loin.
Et maintenant, où ? Par où ? Comment, Seigneur ? Par ici ? Mais c'est un mur, on ne peut plus avancer. C'est même pas un mur, non. Non, c'est rien du tout, c'est peut-être une rue, peut-être une maison, peut-être bien le fleuve, ou bien un terrain vague, ou un grand trou dégoûtant. Je vois plus rien, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai chaud, j'ai mal aux pieds, je sais pas où aller, Seigneur. Et si brusquement quelque chose apparaissait sortant de ce trou noir ? Oh, quel air je devrais prendre ? De quoi j'aurais l'air si un type, plusieurs types, plein de types, tout d'un coup surgissent autour de moi ? Enfin, je veux bien essayer de prendre un air naturel, mais à cette heure ici, dans ces habits, vraiment, j'aurais l'air fine. Oh, j'entends des bruits. J'entends des chiens, c'est plein de chiens sauvages autour de nous qui rampent dans les décombres. Oh, j'aurais dû essayer de venir jusqu'ici avec la voiture. Peut-être qu'avec la lumière des phares, on verrait au moins ce qui rampe par terre. Nous sommes devant un mur, Maurice, on ne peut plus avancer. Dites-moi ce qu'on doit faire maintenant. Dites-moi donc dans quel trou vous préférez qu'on tombe.
Je sais, moi, très exactement où je suis.
Très exactement. Tiens donc, vous êtes fort, très exactement. Bravo. Bravo, bah débrouillez-vous, hein, tout seul, puisque vous savez très exactement. Finalement, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre femme, je ne suis pas votre nounou. Je n'ai pas envie de risquer notre peau à cause de vos caprices.
Ne risquez rien du tout, Monique. Rentrez.
Rentrez ? Mais comment voulez-vous que je rentre ? J'ai les clés de la voiture.
Je rentrerai par mes propres moyens.
Vous ? Vos propres moyens ? Quels moyens ? Seigneur, vous savez même pas conduire. Vous savez pas reconnaître votre gauche de votre droite. Vous auriez été incapable de retrouver le fichu quartier tout seul. Vous savez absolument rien faire tout seul. Je me demande bien comment vous pourriez rentrer.
J'appellerai un taxi.
Tiens donc, un taxi, bravo ! Mais cherchez un téléphone ici, cherchez ! Attendez qu'une voiture passe, attendez ! Seigneur, nous sommes perdus dans ce trou dégoûtant et vous parlez de taxi.
Il y a un ferry qui fait la liaison 2 fois par jour avec le nouveau port. Je me souviens très bien de l'endroit où on le prend. Il passe à 6h, je le prendrai.
Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je peux pas vous laisser seul ici. Je peux pas partir puisque c'est moi qui sais conduire. Avec la responsabilité de vous avoir emmené ici et vous qui savez rien faire tout seul et votre fichu bateau qui existe même plus, peut-être même plus. Vraiment, j'ai l'air fine, hein. Ils auraient pu au moins laisser l'éclairage public, on reconnaîtrait peut-être quelque chose. Il y a quelque chose par terre qui fait glisser, je sais pas ce que c'est. Dans ma famille, figurez-vous, j'avais la réputation de voir clair la nuit. Au moins, au point que l'on a renoncé à m'enfermer dans la cave pour me faire peur. Mais tant de noir, ça, non, j'avais jamais vu. Hein. Oh, j'aurais jamais dû laisser les clés sur la voiture. Manquerait plus qu'on nous la vole. Oh, Seigneur, rentrez à pied. Oh, il y en aurait pour des heures à traverser quartier sans lumière et sans panneau d'indication. En plus, je sens qu'on nous regarde, Maurice. Je vous assure.
Bruit du moteur de la voiture, très loin.
Oh, autrefois, il y avait des lampadaires ici. C'était un quartier bourgeois, ordinaire, animé. Je m'en souviens très bien. Il y avait des parcs avec des arbres, il y avait des voitures, il y avait des cafés, des commerces. Il y avait des vieux qui traversaient la rue, des enfants dans des poussettes. Les anciens entrepôts du port servaient de parking et certains de marchés couverts. C'était un quartier d'artisans et de retraités. Un monde ordinaire, innocent. Oh, il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur, n'importe quel individu le plus innocent qui se perdrait là, même en plein jour, hein, pourrait se faire massacrer en plein soleil et son cadavre jeté dans le fleuve sans que personne ne songe à le venir chercher ici. À tout cela, c'est de la faute au loyer trop bas. Fallait encourager les propriétaires à relever leur loyer. Il aurait fallu les forcer à les relever, même s'ils n'avaient pas voulu. Les cafards, les rats et les cafards ont pénétré ici comme des soldats vainqueurs. Les propriétaires ont laissé les murs se lézarder. Les vitres brisées n'ont pas été remplacées. Les vieux sont morts. Alors, les commerçants ont fini par déserter ces quartiers. Et aujourd'hui, tous ces immeubles, hein, des kilomètres de rues bordées d'immeubles, ne rapportent plus un sou, hein. Pas un centime à personne, rien du tout, rien, c'est dégoûtant. Oh, Dieu sait ce qui vit là-dedans, maintenant. Dieu sait ce qui est en train de nous regarder. Venez, Maurice. De toute façon, vous n'ouvrez pas la bouche. J'ai pas l'intention de parler toute seule toute la soirée. Le moteur tourne, venez.
Coche s'éloigne vers l'obscurité.
N'avancez pas par là. Maurice, le sol est glissant et vous avez vos chaussures de ville. Maurice. Maurice ! Ce n'est pas le monde vivant ici.
Coche a disparu dans l'obscurité.
Où êtes-vous ? Je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Ah, le moteur. J'entends plus la voiture. Ne me laissez pas seul. Maurice.
On entend le choc de l'eau contre la pierre. Une soudaine trouée dans les nuages éclaire fugitivement l'immense façade du hangar et l'autoroute déserte sur laquelle tombe une pluie de feuilles silencieuses. Puis l'obscurité revient et il reste le clapotis de l'eau contre les murs.
Seigneur.
La jetée. Au-dessus du fleuve flotte une légère lumière blanche. Entre Charles, sirène d'un bateau au loin étouffé. Entre Coche, en vol d'oiseau.
J'ai peur.
Pourquoi ?
J'ai peur, je ne sais pas pourquoi.
Tu as ton arme ?
Une arme ? Non. Pourquoi ?
Un flic ne viendrait pas dans un coin comme celui-là sans une arme.
Je ne suis pas un flic.
Fonctionnaire ?
Non.
Privé ?
Non.
Quoi alors ?
Rien, normal, un particulier.
Si c'est vrai, tu as raison d'avoir peur. C'est des Weston ?
Quoi ?
Les chaussures.
Ce n'est pas moi qui m'achète mes chaussures. Qui est-ce ?
Qui ?
Celui-là dans l'ombre qui me regarde.
Ne t'énerve pas. Est-ce que tu as une arme ?
Non, je vous l'ai dit, non.
Personne ne viendrait ici sans arme, sans raison.
J'ai ma raison.
Donc tu as une arme ?
Non.
Si c'est vrai, tu as la tête fêlée, mon vieux.
Charles se dirige vers Abad. Abad et Charles se parlent à l'oreille. Charles revient vers Coche.
Il veut savoir qui vous cherchez.
Personne.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici alors ?
Mourir. Je suis ici pour mourir.
Qui est-ce qui veut ta mort ?
Personne. Moi.
Pourquoi ?
Pour une histoire à moi, une histoire d'argent. Je dois rendre des comptes pour de l'argent qu'on m'a confié, et voilà, cet argent n'existe plus. Pour vous en dire un peu, il s'agit d'argent sacré. Je ne peux pas me présenter au conseil d'administration. Une histoire de réputation, si vous voulez. Ma réputation est à l'eau. Je me fous bien qu'elle soit à l'eau, cela ne me gêne pas, mais je ne veux pas voir le plongeon.
Ce n'est pas un bon endroit ici pour fuir la prison.
Je ne fuis aucune prison. Qui parle de prison ? Voyez-vous des bonnes sœurs traîner au tribunal un homme honorable à qui elles ont en toute confiance offert la gestion de leur argent ? Je n'ai simplement ni l'âge, ni l'envie de me refaire une personnalité.
Pourquoi tu ne files pas à l'étranger, avec cet argent ?
Quel argent ? Je vous dis que je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je n'arrive pas à me souvenir. Au jour le jour, peut-être. Tirer un peu un jour, un peu un autre jour, peut-être. Je ne me souviens pas de grosses dépenses, j'ai un train de vie moyen. Je ne me souviens d'aucune folie que j'aurais faite ces dernières années. Il ne faut pas accepter au moment de la retraite de devenir administrateur dans les œuvres où l'on n'a pas l'œil sur vous.
Charles à Abad.
Il est venu en voiture. Il n'est pas flic. Il n'a pas d'armes. Il n'a pas de raison valable. Il est fêlé.
Abad parle à l'oreille de Charles qui revient vers Coche.
Il veut savoir pourquoi tu veux régler tes sales affaires ici.
J'ai connu ce quartier autrefois. Je cherchais un endroit qui me ressemble. Je veux seulement qu'on me laisse approcher du fleuve, qu'on me laisse ramasser deux pierres. Je ne ferai aucun bruit. Je ne veux pas qu'on me frappe, qu'on me fasse mal. Je n'ai plus rien à donner.
Est-ce que tu es venu seul ?
Oui, sauf une femme.
Une femme ?
Elle conduit la voiture. Elle est encore là-bas, sûrement.
C'est tout ?
C'est tout.
Thank you.
et Charles se parlent longuement à l'oreille.
Il ne veut pas.
Pourquoi ?
Il dit qu'un mort ici attirerait la police.
Foutaise ! L'affaire sera étouffée. Voulez-vous que j'écrive un mot qui vous blanchisse ? Vous le porterez à cette femme.
Il ne veut pas.
Dites-lui qu'avec deux pierres dans les poches, mon corps collera tout au fond. Personne n'y verra rien.
Il refuse.
Suppliez-le !
Non. Qu'est-ce que tu me donnes en échange ?
Je vous ai déjà tout donné, et vous n'avez même pas ramassé la montre.
Je ne ramasse pas, moi.
Prenez la voiture.
Tu ne m'as pas donné d'argent.
Je vous ai donné mes cartes de crédit.
Pas d'argent.
Mais c'est de l'argent, ça. Je ne connais pas d'autres formes d'argent.
Dans tes poches.
J'ai vidé mes poches. Prenez ma veste, si vous le voulez, et fichez-moi la paix avec votre argent. Qu'est-ce que vous voulez donc ? 100 francs par-ci ? 100 francs par-là ? L'alcool et les cigarettes ? Foutaise ! Les billets et les pièces, c'est l'argent du pauvre, de l'argent de sauvage. Mes cartes de crédit sont de l'argent, et ma Rolex, et ma voiture. Elle est garée à deux rues d'ici. Ne me dites pas qu'une voiture, ce n'est pas de l'argent.
Charles à Abad.
Il ne répond pas aux questions. Je crois qu'il est complètement fêlé.
Coche s'approche de l'eau, ramasse deux pierres. Charles s'approche de lui, le retient par la veste.
Tu vas vraiment le faire ?
Oui.
Pourquoi ? Tu as tout ce que tu veux. Tu peux partir où tu veux. Tu as du pognon, je le sens ton pognon. L'odeur me pique les yeux. Pourquoi tu ferais cela ?
Lâchez-moi !
Et les clés ?
Elles sont sur la voiture, je suppose.
Et la femme ?
Débrouillez-vous avec elle.
Et tes chaussures ?
Je les garde.
Charles lâche Coche. Charles regarde Abad. Abad regarde Coche. Coche met les deux pierres dans ses poches.
Le second jour, peu après l'aube, comme il reposait sur sa couchette, son second vint l'informer qu'une voile étrangère entrait dans la baie. Melville. L'autoroute, dans la nuit, avec le bruit de l'eau contre les murs, entre Fac, suivi de Claire. Ils s'arrêtent à la porte du hangar.
Tu es venu jusqu'ici, maintenant passe là-dedans.
Il fait bien trop noir là-dedans pour que je passe.
Il ne fait pas plus noir là-dedans qu'ici.
Eh bien justement, ici il fait complètement noir.
Il ne fait pas complètement noir ici puisque je te vois.
Et moi je ne te vois pas. Pourquoi il fait complètement noir donc ?
Si tu passes là-dedans avec moi, je te parlerai de quelque chose à propos de quelque chose dont je te parlerai si on passe tous les deux là-dedans.
Je ne peux pas passer. Mon frère me tabasserait.
Ton frère ne sera pas.
Même s'il ne saura pas, je ne peux pas passer.
Pourquoi tu m'as suivi jusqu'ici alors ?
Je suis venue jusqu'ici seulement pour prendre l'air. Parce que j'ai bu trop de café, parce qu'il faisait trop chaud chez moi. Pas pour faire du tout quelque chose avec toi.
Je ne te demande pas de faire quelque chose. Tu n'as qu'à te laisser faire. Moi, je te fais passer là-dedans et je m'occupe de tout.
C'est trop noir là-dedans. Je suis trop petite et j'ai peur.
Il y a des trous dans le plafond et dans les murs. Il fait moins noir dedans que dehors à cause des lumières du port qui viennent de l'autre côté.
Et comment je pourrais le savoir assez pour ne pas avoir peur, moi ?
Tu n'as qu'à fermer les yeux, voilà comment.
C'est idiot, si je ferme les yeux, il fait complètement noir.
Si tu fermais les yeux, comment c'est dehors, noir ou pas, ça te serait égal. Tu peux faire comme si c'est plein de lumière, que tu as simplement les yeux fermés, que je te conduis, qu'on passe tous les deux là-dedans, que tu les ouvrirais quand je te le dirais, et ce n'est même plus la peine de les ouvrir jamais.
Si au moins il y avait une lumière dans la rue, si je pourrais voir la porte et je pourrais dire je passe ou je ne passe pas. Mais maintenant je ne vois même pas la porte et je ne peux pas dire si je veux ou si je ne veux pas. Je crois que je ne veux pas parce que je ne vois pas la porte. Au point que si je ne savais pas qu'il y en a une parce que je la vois tous les jours quand il fait jour, je ne saurais même pas qu'il y en a une. Et que si toi tu ne me parlais pas, je ne saurais même pas qu'il y a toi ou quelqu'un là, et je finis par avoir tout à fait peur.
Il ne faut pas avoir peur trop longtemps de suite, et il faut bien arrêter une fois d'être petite.
En plus, je sais précisément pourquoi tu veux que je passe là-dedans. Et pour cela, moi je ne veux pas de cela, car je sais très précisément de quoi il s'agit.
Si tu es encore petite, tu ne peux pas savoir très précisément pourquoi je veux qu'on passe tous les deux là-dedans. Et si tu savais précisément pourquoi on y passerait, alors... Tu n'es pas si petite que ça. Ne fais pas tant d'histoires, passe et voilà tout.
Peut-être que je ne sais pas tout à fait précisément parce que je suis encore un peu petite. Mais je suis sûre que ce ne sont pas des choses très très bien puisque mon frère me tabasserait s'il me voyait maintenant avec toi.
Comment tu pourrais dire de ces choses-là qu'elles ne sont pas très bien puisque tu ne sais pas du tout comment c'est ?
Je ne sais peut-être pas comment c'est parce que je suis petite, mais ce n'est pas parce que je suis encore un tout petit peu petite que tu peux me dire n'importe quoi et que je le goberai.
Mais comment, s'il te plaît, tu pourrais savoir comment c'est bien ou pas bien puisque tu n'as jamais essayé cette chose-là avec personne ? Et que, si tu avais essayé, que tu dirais « ce n'est pas bien du tout », je dirais « alors tant pis, on ne passe pas ». Mais comme moi, je sais que si tu avais essayé, tu ne dirais pas « ce n'est pas bien du tout », mais tu dirais « c'est absolument bien ». Et que tu passerais là-dedans sans faire tant d'histoires. Je sais que tu ne sais rien, que d'abord il faut essayer et après seulement on peut dire « je sais ».
Pourquoi alors tu ne commences pas à me dire ici ce que tu as dit que tu avais à me dire ?
Pas ici. Là-dedans, je te le dirai et je te donnerai quelque chose ensuite.
Quoi ?
Ensuite, je te le donnerai.
Je ne dis pas, bien sûr, peut-être un jour, que je ne passerai pas là-dedans en cas que quelqu'un de très très joli un jour me dise « passe ». Mais le problème là-dedans, c'est que toi, je te connais, je te vois tous les jours, et même s'il fait noir maintenant, je me souviens tout à fait comment tu es. Alors, sans vouloir te le dire, parce que je sais que ce ne serait pas très gentil, on ne peut pas dire que tu es si jolie au point que je dirais « d'accord, je passe avec celui-là là-dedans et je laisse tomber tous les autres ».
La vérité, c'est que tu ne peux pas savoir si un garçon est joli ou pas joli, tu ne peux rien savoir sur un garçon.
Comment ça, s'il te plaît, que je ne pourrais pas savoir ? C'est trop fort. Je sais quand même regarder les gens et dire « il est joli » ou « il n'est pas joli ». Ce n'est quand même pas à toi de dire « je suis très très jolie », ce serait trop facile. Dans la vie, c'est les autres qui disent de quelqu'un « il est joli » ou pas. Sinon, ce serait vraiment trop facile, sans blague. Tous les jours, je vois des tas de gens. Je ne suis pas complètement idiote. Je suis bien capable de choisir et de dire « avec celui-ci, je passerai, avec celui-là, non ».
Tu ne pourras pas toujours regarder les garçons comme une petite fille. Et pour l'instant, tu ne sais même pas où il faut regarder un garçon et par où il faut le juger. Après, que tu en auras essayé, tu diras « quel idiote j'étais de dire que ce garçon est joli et qu'il ne l'est pas, et que ce garçon n'est pas joli et maintenant, je sais bien qu'il l'était. »
Si je passerais, alors, qu'est-ce que tu as dit que tu me donnerais ?
Un briquet.
Je ne fume même pas.
Il est en or avec des initiales.
Alors donc, je prends.
Je te le donne si tu passes avec moi là-dedans.
Alors non, je ne prends pas. Quand on donne quelque chose, on le donne et c'est tout, on ne demande pas autre chose, tiens.
Je ne te demande rien, justement.
Comment ça, tu ne demandes rien ? C'est trop fort.
Je ne te demande pas de dire « oui, je passe avec toi là-dedans ». Je te demande de ne pas dire « non, je ne passerai pas ». Je ne te demande donc de ne pas faire quelque chose. Donc je ne te demande pas de faire quelque chose. Tandis que si tu ne passes pas, tu refuses, donc tu fais quelque chose. Et moi, je n'ai pas demandé de faire cela, au contraire.
Mon frère me tabassera.
Personne ne le saura.
Il y a une dame derrière toi qui nous regarde.
Fac se retourne. Monique est là. Vous avez entendu le plouf ? Ah, je suis presque sûre d'avoir entendu le plouf d'un homme qui tombe à l'eau. C'est lui. Oh, Maurice, son briquet ! Qu'en avez-vous fait ?
On entend la chute d'un corps dans l'eau de l'autre côté du hangar.
Seigneur, j'en étais sûre.
Elle se précipite vers Claire.
Sois une gentille petite fille, montre-moi le chemin. Il faut que je le sorte de là. L'eau doit être glacée et sale et pleine de mazout. Et il ne sait pas nager. On ne voit rien. Je suis perdue. Conduis-moi. Tiens, voilà de l'argent. Je te donne de l'argent. Je t'en donnerai encore. Ah, petite sotte. Je te donnerai rien du tout.
Bonsoir à tous.
Je la tabasserai.
Pourquoi tu la tabasseras ?
Parce qu'elle t'a suivi.
Ce n'est pas elle qui m'a suivi, c'est moi qui l'ai suivi.
Je la tabasserai quand même. Une fille n'a rien à foutre dans la rue à son âge.
C'est à cause de trop de café qu'elle a bu.
Elle n'a pas à boire du café à son âge.
Elle n'est quand même pas si petite que ça qu'elle ne pourrait pas boire du café. Tu es son frère, c'est pour ça que tu ne vois pas qu'elle n'est pas si petite que ça. Pas du tout, loin de là, pour le café en tous les cas.
Justement, moi, je vois tout à fait l'âge qu'elle a. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas à sortir la nuit. Elle n'est plus assez petite pour cela. Et je la tabasserai parce qu'elle t'a suivi.
C'est moi qui la suivais, je le jure.
Alors je la tabasserai parce qu'elle t'a donné l'idée de faire ce que tu as fait.
Je n'ai rien fait du tout.
Tu l'as suivi.
Quand il fait si nuit, impossible de savoir qui suit qui. On se trouve comme cela en face sans savoir pourquoi, ni qui est en face de qui.
Tu as eu l'idée d'essayer de la faire passer là-dedans.
Je n'ai eu aucune idée, je le jure. Je parlais seulement parce que la nuit, par hasard, on s'est trouvé en face. Il fallait bien parler pour ne pas avoir l'air bête.
Et tu as mis la main sur elle, hein ?
Je n'ai rien mis du tout. À peine posé, peut-être. Et même, ce n'est pas sûr parce qu'on n'y voyait rien.
Jusqu'où l'as-tu posé ?
Peut-être jusque-là, nulle part ailleurs. En tous les cas, j'y voyais bien assez pour savoir jusqu'où je la posais.
Je ne veux pas que tu poses ta main nulle part, ni que tu la suives, ni que tu aies l'idée d'essayer de la faire passer là-dedans la nuit, sans que tu me dises que tu en as l'idée, pour que je puisse te dire si tu peux continuer à la voir ou non. Elle est bien trop petite pour avoir une idée elle-même, et pour se méfier, et pour te voir venir, comme je sais que tu as l'habitude de venir en te glissant comme un petit dragon et en parlant de quelque chose avec autre chose en tête. Je connais ta technique. Mais après, il sera trop tard et ce sera à moi à la consoler. Je ne veux pas avoir à la consoler. Je préfère la tabasser avant si jamais je devine la moindre idée que tu aurais sans que tu me demandes tout de suite si tu peux l'avoir et la garder.
Je te jure que jamais je n'aurai une idée sans te demander si je peux la garder. Pour l'instant, j'ai la tête complètement ailleurs.
Tu jures que tu me le demanderais ?
Bien sûr que je le jure.
Sur quoi tu es prêt à le jurer ?
Sur ce que tu veux que je jure, je jure.
Je ne vois pas sur quoi. Je ne connais rien sur quoi tu puisses jurer et qui compte pour moi, et sur quoi je puisse te faire jurer et qui compte pour toi.
Quand tu auras trouvé, tu me le diras.
Eh bien, par exemple, jure-le sur, disons, sur les clés de la Jaguar que tu as dans ta poche.
Je jure là-dessus.
Il met la main dans sa poche.
Je ne sais pas sur quoi tu as juré.
Puisque tu ne sais s'il y a les clés dans ma poche, tu sais donc sur quoi j'ai juré et que c'est quelque chose qui compte et pour toi et pour moi.
Sors-les quand même de ta poche. N'essaie pas de me faire un coup.
Je n'essaye rien du tout. Je ne les sors pas, c'est tout.
Alors, 50-50.
50 quoi ? Je ne te demande rien, moi.
Tu l'as suivi. Tu as posé ta main. Tu as eu des idées sans me le demander. Je la tabasserai.
Tu es son frère, elle est petite. Il est normal que tu la tabasses. Ainsi, elle ne poussera pas dans n'importe quel sens. Je ne dis rien d'autre, je ne suis pas son frère.
N'essaie pas de me faire oublier de quoi on parle. Je connais ta technique.
Tu ne connais rien à ma technique. On parle de savoir si je pourrais, si elle me venait, avoir l'idée de poser la main où je veux et la garder posée. Et l'idée de faire passer qui je veux où je veux sans avoir à le dire à personne et rien demander à personne.
À mon avis, tu le pourrais.
Il tend la main.
Et que je pourrais garder l'idée, par exemple, de la faire passer là-dedans, même si elle ne sait pas ce que ça veut dire, même si elle est mille fois trop petite et mille fois trop grande, même si elle a des frères aînés, et la faire passer quand je le voudrais sans qu'on la tabasse et sans qu'on la console et sans rien du tout.
C'est normal, si tu as l'idée, tu peux la garder. Je ne dis rien d'autre, c'est 50-50. Il n'y a personne à tabasser.
Tu le jures ?
Je le jure.
Sur quoi ?
Sur la même chose sur quoi toi tu as juré.
Fac lui donne les clés. Cécile apparaît, le soleil monte dans le ciel à toute vitesse. Quand Charles la voit, il ferme les yeux. Fac et Claire se regardent puis sortent chacun d'un côté.
Dis-moi, Carlos, dis-moi ce que tu comptes faire pour en tirer très vite tout ce qu'on peut en tirer, pour le faire cracher, pour plumer ce pigeon, pour saigner ce vieux coq jusqu'à la dernière goutte de sang avant qu'il l'ait pu. À force de trahison et de complicité, remettre son automobile en marche et qu'il file avec la poule et toutes nos espérances et tout le gâteau sans nous laisser une part, nous laissant dans le noir et dans la misère noire sans eau, sans argent, tout juste bonne à marcher à quatre pattes et lécher la pisse des chiens sur le trottoir et boire de l'eau de pluie dans les poubelles et crever sous l'averse d'une sortie d'égout pendant que toi, Carlos, larve pourrie au soleil, tu dors alors que tu devrais déjà être accroché à lui comme une chauve-souris dans ses cheveux.
Ne m'appelle pas Carlos et fais-moi de l'ombre.
Arrête de dormir et réponds-moi d'abord.
Je ne dors pas.
Tu dors toujours quand je te pose une question.
Non, j'y pense.
C'est la même chose. Comme toujours, lorsqu'il y a quelque chose à faire, tu dors encore ou tu dors déjà. Comme toujours, lorsque je te vois, toujours les yeux fermés, au point que j'en ai oublié la couleur de tes yeux. Au point qu'à te voir, je me demande vraiment si c'est bien là mon fils à qui j'essaye de parler. Si c'est cette larve pourrissante au soleil qu'un jour j'ai amenée depuis notre pays jusqu'au pays d'ici, dans l'espoir d'en faire un être humain de première catégorie. Mais à te voir aujourd'hui, il ne me reste plus rien des espoirs qui me tenaient si droite sur le bateau en arrivant ici. Rien que cette larve ignorante, incapable et renégate, pâle comme les gens d'ici, vêtue comme les gens d'ici, gâtée par le soleil et les manières et la paresse de crocodile des gens d'ici, et qui a méprisé l'école, tourné le dos à l'honorabilité, obligé de travailler un travail sans nom, la nuit, un travail sans fiche de paie, sans augmentation et sans honorabilité. Et même cela, tu l'as laissé tomber? Et maintenant tu te laisses couler comme une larve morte dans une flaque, tandis que là-bas est en train de sécher notre part du gâteau que tu vas laisser filer, sans les remerciements obligatoires et justes que nous reviennent de droit puisque tu l'as sorti de l'eau.
Ce n'est pas moi qui l'ai sorti de l'eau.
Si, c'est toi. Si, c'est toi. J'ai tout vu de ma fenêtre. Il doit payer le fait d'avoir trébuché dans ce trou, Carlos. Il faudra bien qu'il paye.
Je ne veux pas que tu m'appelles Carlos.
C'est ton nom.
Je m'appelle Charles.
Pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Et pas devant moi.
Tu m'empêches de penser.
Arrête de penser et réponds-moi.
Où on parle, où on pense, on ne peut pas tout faire.
Pour qui est-ce que tu penses? Pour toi tout seul ou pour nous tous?
Je pense en général.
On est trop malheureux et pas assez riche pour penser.
Il faut penser pour avoir un plan.
On n'a pas besoin de plan.
Moi, il me faut un plan. Pour faire quelque chose.
Tu ne fais pas de plan, tu dors.
Je ne dors pas, je pense.
Alors, dis-moi le résultat de cette pensée.
Laisse-moi le temps d'abord.
On est trop vieux pour prendre son temps. Si tu ne fais rien, je vais m'occuper moi-même de le faire cracher.
Ne t'occupe de rien. Reste dans ton coin. Ce ne sont pas tes affaires. Tu es beaucoup trop vieille pour trafiquer et malade.
Il est venu pour nous tous, pas pour toi seulement. Quoi ? Une automobile arriverait pendant la nuit ? Tout le monde sortirait pour trafiquer et moi, on me laisserait dans mon coin sous prétexte que je suis trop vieille et malade ? Je trafiquerai quand même puisque tu ne fais rien.
Si tu parles tout le temps, je ne peux pas penser. Si je ne pense pas, je n'aurai pas de plan. Si je n'ai pas le plan, alors je ne pourrai rien faire. Eh, laisse-moi tranquille.
Non, Carlos. Ne dors pas. Ne dors pas, Carlos.
Charles, nom de Dieu.
Ne dors pas.
J'ai le soleil dans la figure.
Elle bouge et lui fait de l'ombre.
Je veux être dans ton plan. Au beau milieu de ton plan. Bouffer avec toi ma part de gâteau qu'il est juste que je bouffe avant de crever. Je ne veux pas que ton plan soit pour toi tout seul, que tu nous laisses planter dans cette merde au milieu des sauvages que je ne connais toujours pas. Ni les habitudes, ni les manières, ni la religion. Sans eau, sans argent, sans lumière, avec cette fille sur les bras que je ne saurais jamais à qui donner car je ne connais personne ici. Et ce vieux mari qui n'en finit pas d'expirer son dernier souffle de guerrier, et moi-même sur mes bras, si vieille, si malade, d'une maladie d'ici, cruelle, sournoise, sans nom et sans saint patron à invoquer. Alors que c'est sur toi seul que j'aurais pu compter pour donner un nom à ma maladie et ne pas en crever comme je vais crever sans avoir connu un seul petit moment sans souffrance et sans misère comme une mouche enfermée dans un placard qui meurt à la fin du jour sans que le placard ait même été entrouvert.
Tu n'es pas si malade, ni si vieille. Tu fais juste semblant pour pouvoir pleurnicher et m'empêcher de réfléchir.
Oui, j'aime pleurnicher. Et je continuerai à pleurnicher au pied de ce crocodile que tu as pêché dans l'eau et qui sèche là-bas. Et qui, si tu continues de dormir comme un hippopotame, va se tirer d'ici sans notre récompense. Mais si tu ne bouges pas, je crèverai moi-même les pneus de son automobile avec un couteau de cuisine et je lui planterai moi-même mes dents dans sa cuisse et je lui ferai verser ses larmes jusqu'à ce qu'il soit complètement sec, Carlos. Réponds-moi.
Je ne veux pas entendre ce nom.
Et moi, je ne t'appellerai jamais autrement.
Alors je ne te répondrai jamais.
C'est un crime de changer le nom sous lequel Dieu nous connaît. Ce qui est sur ton compte sera mis sur le compte d'un autre. Et Dieu sait ce qui sera mis, Carlos, sur le tien.
Je ne répondrai pas.
Dans le hangar, traversé de rayons dorés, Cécile, longuement préoccupée et solitaire, traverse le hangar. Arrivée devant Abad, elle s'arrête, le regarde à peine, sort un mouchoir de sa poche, lui tend.
Je veux fumer une cigarette. Je suis une vieille femme malade. Je ne dois absolument pas fumer à cause de ma toux. Mon mari ne veut absolument pas que je fume. Il trouve que cela fait putasse. Je voulais amener des serviettes pour te sécher, des cigarettes pour te droguer et mon baratin pour te corrompre. Mais je suis une très vieille femme sans mémoire. Je n'ai qu'un vieux mouchoir pas très propre et l'envie de fumer moi-même. Tu vas attraper une fluxion de première classe si tu ne te sèches pas.
Abad prend le mouchoir.
Je m'entends bien avec les sauvages. Je suis une vieille sauvage moi-même. Mon mari dit que je resterai toujours une sauvage même si je fais la putasse. Il faut pouvoir rire quand on a envie de rire. Je n'ai pas de feu non plus.
Abad lui tend une cigarette allumée.
C'est le monde renversé, mais Dieu, merci bien, a l'habitude de distinguer les animaux purs des animaux impurs. On ne couchera jamais sur la même couchette, merci bien. Vous n'embarquerez pas sur le même bateau que nous. Séchez-vous donc. Putasse, moi. Je veux seulement, entre nous, fumer une cigarette. Je veux respirer un peu entre sauvages.
Il fume.
Jusqu'au soir, il faut que je me cache. Quand le soir commencera à venir, j'irai trouver ce monsieur distingué avec mon baratin. Si je commence trop tôt, je serai cuite. Mon baratin ne marche qu'aux premières heures du crépuscule. Je suis si fatiguée que dès que j'ai une petite idée, il faut que je m'assoie pour reprendre mon souffle. Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, il n'a rien vu. Il est trop vieux. Il a 600 ans et il avait de la flotte plein les yeux. Donc je lui ferai le baratin de la vieille femme malade dont le fils l'a tiré de l'eau et je ramasserai le paquet. Je déposerai ma liste tout comme à mon mariage. La boutique est de première catégorie. J'ai vu l'automobile de très très près au soleil. C'est pourquoi il faut que je me cache. Un sauvage dans ce pays doit savoir demeurer discret. Tu es discret. Merci bien. Si je n'avais pas entendu les gouttes d'eau qui dégoulinent de ta tête, je t'aurais pratiquement cogné dedans. Qu'est-ce que tu attends pour te sécher? Qu'il ait sa fluxion? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, tu ne ramasserais rien de rien. Merci bien. Ce monsieur distingué saura faire la différence. On ne flottera jamais, toi et moi, sur le même morceau de bois. Mon mari dit qu'il faut pouvoir rire quand on a envie de rire. Cigaros Winston, cigaros de Maricon.
Elle jette la cigarette.
Ne laisse pas tomber mon mouchoir propre dans cette saloperie.
Elle ramasse le mouchoir.
C'est très sale ici. C'est dégueulasse. J'en ai honte pour vous. Jamais vu une telle dégueulasserie. Dans mon pays, on aurait honte d'imaginer un endroit pareil. Même les rats des égouts de mon pays refuseraient de s'accoupler avec les rats d'ici. Mais mon fils n'a jamais été complètement normal. Tant pis, je ferai sans toi. Les sauvages entre eux se bouffent le nez, c'est connu au lieu de s'entraider.
Elle se lève, s'éloigne d'Abad.
Quel prix tu as payé, toi, pour vivre en paix dans ce pays? Pourquoi es-tu parti de chez toi? Est-ce que tu as assassiné ta mère? Est-ce que tu as fait de la politique? Un homme ne quitte pas son pays avec la honte du nom de sa mère sans un crime. Vous nous portez malheur avec l'odeur de vos crimes, de votre honte, de votre silence, de tout ce que vous cachez. Avec vous, venu ici sans père, ni mère, ni race, ni nombril, ni langue, ni nom, ni dieu, ni visa, est venu le temps des malheurs, les uns après les autres. À cause de vous, le malheur est entré chez nous. Il a monté nos escaliers, il a défoncé nos portes et ça a été le commencement de la misère, le commencement du manque d'argent, le commencement de l'obscurité quand il faut de la lumière et des soleils qui refusent de se coucher. Le commencement des bateaux qui ne s'arrêtent plus, de l'abandon des maisons par les gens honorables, le commencement du désordre, des insultes, des coups de couteau, de la peur de la nuit, de la peur du jour, de la peur collée aux épaules, du dérèglement des jours et des nuits, le commencement des maladies piquées dans notre sang par les mouches qui se cachent dans vos cheveux. Avant, le soleil était le soleil, et il obéissait aux doigts et à l'œil. Et la nuit, le temps du sommeil. Les portes fermées à clé, les fenêtres fermées avec des vitres, et des robinets coulaient de l'eau. Mais vous avez bu jusqu'à la dernière goutte de l'eau de nos robinets et vous n'en avez laissé pour personne. Avant, tout était bien ici. Il n'y avait ni douleur dans les jambes, ni douleur dans le dos, dans le cou, dans les yeux. Pas de fièvre qui empêche de dormir, pas de mal de ventre ni de mal de poitrine. Alors nos corps à nous marchaient, bien dressés, les épaules en arrière et le dos souple.
mais votre honte a courbé lentement nos épaules et baissé notre tête. Et ça a été le commencement de notre malheur. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus rien voir. Couchez.
Les rayons dorés clignotent doucement et perdent leur éclat. Cécile sort.
Claire et Fac en courant, le long du hangar encore légèrement ensoleillé.
J'ai pas le temps.
Moi non plus.
Je veux pas que tu me parles.
Je ne peux pas te parler puisque j'ai pas le temps.
Je veux même pas que tu me regardes, même à toute vitesse, je veux pas.
Je n'ai plus besoin de regarder puisque tranquillement je t'ai déjà regardé, et tout sans exception, sans même un habit dessus.
Tu n'as rien regardé du tout sans les habits dessus, qu'est-ce que tu racontes ?
Si, je l'ai regardé, ce matin je l'ai regardé.
Et comment est-ce que tu l'aurais regardé, s'il te plaît, et tranquillement en plus, c'est trop fort ?
Quand tu as tout débarbouillé dans le fleuve ce matin, sans exception, je te l'ai regardé.
Jamais je ne me débarbouillerai dans le fleuve, qu'est-ce que tu racontes ? L'eau est bien trop sale, on a une maison, il y a un robinet et de l'eau propre dedans.
Il n'y a plus d'eau dedans et ce matin, ta maman t'a forcé à te débarbouiller dans le fleuve. Et elle regardait autour pour voir si personne ne regardait pendant que tu te débarbouillais. Mais moi, j'étais sur le toit là-dessus et je te regardais sans exception comme je te vois maintenant avec les habits dessus maintenant.
Je ne verrais pas ce que ça changerait en tous les cas.
Ça change que maintenant tu ferais mieux de vouloir avec moi pour être à égalité et me l'avoir regardé à moi aussi, sinon tu as l'air vraiment trop bête.
Je ne vois pas ce qu'il y a de changé puisque moi aussi je t'ai regardé quand tu te débarbouillais ce matin dans le fleuve très tranquillement, alors donc on est déjà à égalité et il faut que tu trouves un autre truc.
Tu ne m'as rien regardé du tout puisque je ne me le débarbouille pas, ni rien du tout, ni dans le fleuve, ni dans une maison, ni dans aucune espèce d'eau, ni sale, ni propre, jamais.
Et tu voudrais que je veuille avec toi alors que toi-même tu dis que tu ne te débarbouilles jamais rien du tout et nulle part ? C'est trop fort. Peut-être que j'aurais peut-être voulu avec n'importe qui se débarbouillerait tous les jours et partout et sans faute. Mais puisque toi-même tu dis que sans faute, tu ne te débarbouilles jamais, je ne vois pas comment je pourrais vouloir puisque je suis complètement propre toujours et partout.
Moi aussi, tu peux voir, je suis complètement propre toujours et n'importe où.
Comment ça, que tu serais propre ? Cela, je ne le goberais pas. Tu viens de dire toi-même que tu ne te débarbouilles jamais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tiens.
Justement, ceux qui ne se sont jamais débarbouillés depuis qu'ils sont tout petits, ils sont toujours propres, parce que la crasse se désintéresse d'eux et leur glisse dessus. Tandis que ceux qui tout le temps se débarbouillent et y passent beaucoup de temps, la crasse leur court après, puis ils se lavent, plus elle s'accroche. Et plus tard, quand tu seras très grande, tu devras te laver de plus en plus souvent. Et plus tard, quand tu seras très vieux, tu te débarbouilleras tout le temps. Et tout le temps, tu seras sale alors que moi, je suis propre jusqu'à la fin du temps.
De toute façon, même sans égalité, jamais je ne voudrais. Parce que je sais, moi, très précisément que mon frère t'a dit que tu le pouvais, que je le veuille ou non. Alors donc moi, que tu le puisses ou non, jamais je ne le voudrais.
Je ne vois pas du tout ce que ça change pour toi que je le peux ou non, puisque ce que je veux maintenant, c'est que tu le veuilles aussi.
Et pourquoi, s'il te plaît, il te faudrait en plus que je le veuille alors que tu le peux déjà ?
Parce que c'est bien meilleur lorsque tout le monde le veut, et que tu verras toi-même aussi à quel point c'est meilleur.
Eh bien, figure-toi que même si je saurais que ce serait meilleur D'ailleurs, si je le voulais, je ne le voudrais pas quand même avec un garçon, parce que les garçons, vous voulez toujours échanger quelque chose contre quelque chose et vous ne donnez jamais rien, alors je ne veux rien du tout.
Je n'échange rien, moi. On me donne ou on ne me donne pas. Je prends ou je ne prends pas, je donne ou je ne donne pas.
Comment ça, s'il te plaît, que tu n'échangerais pas ? J'ai quand même très précisément vu ce matin qu'avec mon frère, tu as échangé les clés de la voiture pour qu'il puisse filer contre quelque chose que je sais très précisément.
Je n'ai rien échangé du tout puisque je ne lui ai rien donné pour qu'il puisse filer et que je l'ai encore là dans ma poche.
Quoi ?
La tête de Delco.
Alors donne.
Tiens.
Je suis très malheureuse.
Si tu étais très malheureuse, tu ne dirais pas toujours non. Quelqu'un de très malheureux dit oui et quelqu'un qui dit non est toujours un peu heureux encore.
Pourtant, je ne suis plus un peu heureuse du tout.
Si c'était vrai, tu dirais dire oui.
Oui.
Quand ? Très précisément.
Quand il fera très noir, peut-être, oui, que je dirai oui.
Quand il fera noir, tu le voudras, vraiment ?
Complètement noir. Oui, là, je le voudrais, vraiment.
Je t'attendrai.
Oui, oui, oui. Ce n'est pas encore la mort. Elle n'est jamais douloureuse. London. L'autoroute, début de soirée avant le coucher du soleil. Coche dans les bras de Monique.
J'ai mal.
Je sais.
Je veux rentrer.
Je sais.
Vous ne savez plus où est la voiture ?
Bien sûr, je le sais.
Je veux rentrer, Monique. J'en ai marre de ces foutaises.
Je sais.
J'ai mal.
Oh, Seigneur, Maurice, pourquoi vous acharnez-vous contre moi ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de si grave pour mériter cela ? Brute, clochard, malade, miteux, déchet d'être humain. J'en ai tellement marre de ces fous mal lavés. Je préférerais vivre avec des rats et des chiens. Seigneur, tous ces gens me dégoûtent. Je vais vivre enfermée par quatre portes de béton. Je vais me faire barricader dès que je rentre chez moi. Je ne me ferai passer la nourriture par un tunnel pour ne plus voir ni sentir l'odeur de cette raclure d'être humain. Je vais me faire couler du béton des cheveux jusqu'aux pieds avec juste un trou dans la bouche et le nez. Maurice, je veux rentrer.
Monique et Maurice tombent dans les bras l'un de l'autre. Claire, à fac.
Je t'ai déjà dit 1000 fois que je ne fume même pas.
Ça peut te servir pour voir par terre.
Claire, prends le briquet que lui tend fac.
Que veux-tu dire ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ?
Cécile, se précipitant sur Claire.
Qu'est-ce que tu fais là, toi ?
Je cherche la montre.
File, immédiatement.
Je vois pas pourquoi je chercherais pas la montre, moi, puisque tout le monde la cherche.
Tu n'as rien à chercher ici. Rentre immédiatement, dors, couche-toi, mélange-toi à la paillasse. Disparais dans le sommier.
Je peux pas, c'est le café, je veux rester.
Rien du tout. Et mets cette chaussure, idiote.
Non, je peux pas mettre la chaussure du tout. Je veux savoir.
Tu n'as rien à savoir, idiote. Qui t'a demandé de savoir quoi que ce soit ? Mets cette chaussure.
Non, je ne veux pas.
Tu la mettras quand même. Et maintenant, file.
Je veux pas filer.
Tu fileras, idiote.
Je reviendrai.
Essaye toujours.
Claire sort. À fac.
Et toi, cesse de tourner autour de cette petite pute.
coche à Monique.
J'ai glissé. Je me demande sur quelle cochonnerie. Vous voyez quelque chose, vous ?
Non, je ne vois rien.
Vous entendez ?
Non.
Vous n'entendez pas ce vacarme là dehors ?
Ce sont les chiens dans les poubelles.
Regardez, Monique. Regardez mon pied.
Il est enflé. Tout le monde m'insulte. Tous ces gens que je connais pas.
Accrochez-vous à mon bras, Monique. On va essayer de sortir de là discrètement.
Je dirais qu'on a fait travailler l'argent. Je montrerai des plans d'investissement. En 2 heures, Maurice, je peux préparer cela. Cela nous donnera un sursis. Je suis bien capable de faire avaler ça au conseil d'administration. Vous savez que je suis capable de faire avaler n'importe quoi à n'importe qui.
Oui, je sais.
Seulement, il faudra bien que vous me disiez où est passé cet argent. Hein. Pas maintenant, pas tout de suite. Mais il le faudra bien, Maurice.
Oui, il faudra bien que je vous le dise, je sais.
Venez, Maurice. Discrètement, on ne nous regarde pas.
J'ai mal. Je n'arrive pas à marcher.
On y arrive presque. Nous voilà à la porte. Allez, pendez-vous à moi.
J'entends encore tes petits pas, petite pute. Veux-tu filer sur ton matelas avant que je n'arrive ?
Il s'enfuit !
Carlos, arrête-le !
Oh, Seigneur !
Abad apparaît le fusil mitrailleur à la main.
Je l'appelle bavard, menteur, fourbe. Car lorsqu'il se réveille après un court somme, il gémit, qu'on entend déjà une autre couche. Si tu m'avais un peu en bonne grâce, si seulement tu te laissais une fois émouvoir par ma tristesse et mon dégoût de la vie, si au moins tu n'étais pas si cruel que, par pure méchanceté, tu me prives de l'ultime lieu de mon repos auquel tout être a le droit de parvenir. Tu écouterais un instant ma prière et tu te laisserais attendrir. Tu me faciliterais l'accès de ce lieu de repos, puisque je te promets que, dès que je l'aurai atteint, je ne convoiterai plus. Je me tiendrai à celui-là. Je m'y coucherai et jamais plus je ne quitterai les lieux. Jamais plus tu ne m'entendras me plaindre. Mais à peine a-t-il obtenu l'objet de sa prière, à peine a-t-il parcouru les lieux que, rassasié, après un court somme, il s'éloigne de la place avec un vague regret, relève la tête, convoite une autre couche et supplie à nouveau. C'est la chienne qui tient l'homme par sa laisse, l'esclave qui bafoue le maître, l'oiseau qui enferme l'enfant dans sa cage. Je ne veux plus lui parler, plus l'écouter, ne plus céder, ne plus jamais me laisser tirer des larmes. Je veux être méchant et dur, et sans cœur à mon tour, et lui mettre la muselière comme à une bâtarde mal dressée, et me battre contre elle jusqu'à ce qu'elle se couche. Quand je lui dis de se coucher, qu'elle se fourre, je lui dis de se fourrer, qu'on finisse par voir qui obéit à qui. Je l'ai frappée avec un bâton pour lui apprendre le respect, mais je n'ai fait que l'endurcir et la rendre insolente. Je l'ai plongée dans l'eau glacée pour lui apprendre le silence, mais je n'ai fait qu'exciter sa curiosité. Je l'ai piquée avec des épines pour qu'avec son sang coule sa méchanceté et les souffrances qu'elle m'infligeait, mais je n'ai fait que lui donner le goût de la souffrance. Elle secoue la porte, elle crie. Laisse-moi sortir, promène-moi dans le monde, ne me laisse pas enfermer comme une vieille épouse inutile et dont tu aurais honte. Mais si je la sors, elle m'inflige des brûlures comme les règles des femmes et des démangeaisons. Et si je ne la sors pas, alors elle jette un sort et ma peau jaunie se couvre de boutons et l'intestin me fait mal. C'est l'esclave que je ne peux pas affranchir, le chien que je ne peux pas abattre. Mais au contraire, je dois m'accrocher des mains et des dents à sa laisse, car son nom c'est le mien et je ne veux pas que soit effacée la mention de mon existence parmi les hommes, ni ma raison d'exister anéantie dans ce monde. Stop and go on an empty cross. The lights keep changing, the only their harm. Standing in line along the curve. The bed bags wait till the morning comes. You hear yourself walk, echo lonely. See shadows move in every door. Are you sure that's your own footsteps behind? Is there really nothing to turn around for? And you feel that you're always gonna walk the city streets all on your own. Night is dark as a car crawls by and the road goes on and on. They don't even care about you. They never even think about you. Is there gonna do
just another big city night.
Je te disais que je pouvais, moi, te faire gagner du temps et de l'argent. Si je te disais que j'allais, moi, te donner plus de temps qu'il n'en faut pour réussir dans la vie, Charlie. Et la meilleure méthode pour gagner plus d'argent qu'il ne faut dans une vie. Et le truc pour être meilleur et fort en face de tous les autres. Je peux faire, moi, pour toi, Charlie, ce que personne jamais ne pourra faire pour toi. Je peux m'occuper de toi comme personne jamais ne s'occupera de toi. Je peux être pour toi, sous ta main, ce que personne d'autre n'a sous la main, et comme ça, tu sauras tout ton temps, tu auras tout ton temps pour tout le reste. Si je te disais, Charlie, que moi, je peux t'aimer comme personne jamais ne t'aimera. Tu vas gâcher ton temps, Charlie, moitié pour gagner de l'argent, moitié pour chercher quelqu'un qui t'aime, alors qu'avec moi, tu pourras prendre tout ton temps pour l'argent sans t'embêter avec le reste. Moi, je t'aimerai comme personne jamais ne t'aimera. Tu n'auras plus qu'une chose en tête, qu'une seule chose à chercher et à trouver, qu'à t'occuper de toi et gagner tout ton argent. Tu regarderas les autres, Charlie, en train de chercher quelqu'un pour les aimer comme ci, comme ça, une ici et une là, un peu et un petit peu, et qui présente la facture. Avec moi, il n'y aura pas de facture. Ce sera une affaire réglée. T'auras besoin de rien, ni de me regarder, ni de me parler, ni de penser à moi, ni de m'aimer du tout, juste m'avoir sous la main, et tu pourras aimer toi qui tu voudras, et toi présenter la facture. Alors tu n'auras plus, Charlie, qu'à profiter de tout, et tu rigoleras en regardant les autres. Ce serait trop idiot, Charlie, de ne pas en profiter. Si je te disais que je peux t'aimer, Charlie, comme personne ne pourra t'aimer. Je peux, moi, t'aimer. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, en hiver et en été, n'importe comment, et n'importe où, ici ou ailleurs. Si je te disais que je t'aime tellement, Charlie, que c'est ton intérêt que je t'aime, comme cela, et que je continue et que je puisse continuer comme personne ne pourra, Charlie, t'aimer jamais.
Claire regarde Charles qui s'éloigne. Nuit.
Sur le théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis. Nous venons d'entendre des extraits de lecture de Key West de Bernard-Marie Coltès, interprété par Arnaud Gagnou, Camille Régnier-Villard, pardon, Marvin Vandeville, Julien Michel et Leïla Brahimi. Merci beaucoup. La semaine prochaine, vous aurez droit à une carte blanche avec des invités. J'inviterai Guy Néjon pour son Duras Platini qui joue au Nouveau Théâtre du 8e dans le cadre des cycles de lecture sport et théâtre. Mais maintenant, sans plus attendre, je vous propose d'écouter notre chronique radiophonique qui a été réalisée cette semaine par Clara. À la semaine prochaine. Et au revoir à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Actualité théâtrale. Aujourd'hui, j'ai choisi de donner la parole à ceux qui voient tout, mais que l'on entend peu, les spectateurs. Or, le week-end dernier, au Théâtre de Midland, se jouait pour la première fois à Lyon le tout nouveau spectacle de Florent Fichot, que vous retrouvez très régulièrement dans l'émission. L'occasion était trop belle. Les textes sont du jeune auteur contemporain Grégoire Courtois, et le spectacle s'appelle « Assis, debout, couché, sauté ». Il est en deux parties. Assis debout couché d'une part, trois monologues qui questionnent furieusement le sens de la vie, et Le saut dans le vide, d'autre part, toujours un monologue, mais plus narratif celui-là. On pourrait dire à la manière des musiciens qu'il y a plusieurs mouvements dans ce spectacle concertant. Au terme d'une soirée animée et conviviale dont Midland a le secret, j'ai donc recueilli pour vous les impressions des spectateurs, très majoritairement enthousiastes.
Mais je le trouve extraordinaire.
Et j'ai bien apprécié le spectacle.
Super.
C'est fort.
Ouais, moi j'ai beaucoup aimé les textes.
Ouais. Impressionnant.
Il y a un débit important dans les paroles. Et en même temps, il y a une compréhension excellente. C'est assez curieux parce qu'à un moment, on a l'impression que tous les mots se bousculent et que on les comprend.
Alors, c'était pas la première fois que je voyais ce comédien sur scène. C'était la troisième fois, il me semble, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me fais la même réflexion. Je me dis que c'est vrai que c'est assez impressionnant comme il arrive à maintenir l'attention du public alors que c'est un monologue à chaque fois, quoi. Il est seul sur scène. Donc là, c'est vrai que ça dure quoi, une heure et demie à peu près. Et malgré ça, c'est vrai que j'ai pas décroché une seule fois, mais vraiment que du plaisir, quoi.
En effet, presque pas de décor, à peine un projecteur, et Florent, seul sur scène, pour interpréter ces textes qui deviennent concerts entre slam et rap.
J'ai été très, très intéressée aussi par les différences de personnages, un peu rappeur, un peu une façon de dire son texte plus de ce côté-là, ouais, en rap. Et puis des moments beaucoup plus théâtrales, beaucoup plus, puis d'autres moments très nature. Enfin bon.
En tant que musicienne, j'ai eu l'impression d'être au concert. J'ai pensé à du slam parfois, et parfois effectivement c'était tellement dense que je me laissais simplement porter par la musique des mots sans les comprendre par la suite.
Il m'a semblé que parfois la virtuosité du texte, elle était essentielle par les mots, mais pas seulement par les mots. C'est-à-dire que parfois, il y a de la virtuosité pour la virtuosité. Et que cette association de mots, de tourner autour, de détourner, etc., c'est fort, quoi. C'est fort parce que ça a du sens et en même temps, ça participe à cette musicalité dont je parlais tout à l'heure.
Bref, Florent a suivi brillamment les conseils de l'auteur et tous les spectateurs les ont retenus.
Il faut avoir quelque chose d'important à dire.
De le dire fort, et ensuite d'être debout pour le dire.
Beaucoup restent d'ailleurs scotchés à la sortie du spectacle, encore sous le coup de la performance de l'acteur, véritable démonstration de virtuosité.
C'est une performance d'acteur, assez stupéfiant, quoi. Très dense, un peu trop parfois, parce que il faut du temps pour maintenant faire le tri de tout ça. Mais bon, c'est très nourrissant. Maintenant, il faut digérer.
Et si on leur demande quel passage les a le plus marqués, la réponse est unanime.
Debout.
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 Debout. Ouais.
Debout.
Le debout et le sauter. Parce que le sauter, c'est vraiment... réinterroger sa propre vie. Et finalement, est-ce qu'on prend le temps de faire ça?
Enfin, il y a au moins une exception.
Et il y a des mots, des images, des moments que tu retiens de ce spectacle particulièrement?
Et les silences. Je prenais le temps de réécouter dans ma tête, presque. Je prenais le temps de la voir, parce que son corps nous racontait aussi ce qu'il venait nous dire en mots.
Et s'il y avait 3 adjectifs pour qualifier le spectacle?
Performance et compréhension.
Mais là, il n'y en a que 2. Quelqu'un d'autre, peut-être?
Coloré.